Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marine Digabel.
Bonjour. À l'occasion de l'exposition de la Cité des sciences Alzheimer Vivre Avec, nous accueillons aujourd'hui deux représentants de l'association France Alzheimer. Professeur Jean-Jacques Hauve, vous êtes membre du comité scientifique de France Alzheimer, vous êtes également membre de l'Académie de médecine et, pour dire les choses simplement, spécialiste du vieillissement du cerveau. Docteur Jean Petitpré, vous êtes secrétaire général de France Alzheimer, gériatre. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. La maladie d'Alzheimer a été déclarée grande cause nationale 2007 par le Premier ministre. C'est une victoire pour les associations qui tirent la sonnette d'alarme. Pourquoi ? Parce que la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sont aujourd'hui un problème de santé publique. On estime que près d'un million de personnes seraient touchées et que 220 000 nouveaux cas se déclareraient chaque année. En fait, le vieillissement de la population entraîne une augmentation mécanique du nombre de cas de cette maladie terrible, tant pour les personnes atteintes que pour leurs familles. Je rappelle brièvement les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Il s'agit d'une altération des fonctions cognitives qui entraîne une perte d'autonomie progressive et qui débouche sur certaines formes de démence. Des traitements existent, mais il reste beaucoup à faire dans la prise en charge de cette maladie. Nous faisons donc aujourd'hui un état des lieux avec France Alzheimer. Alors, première question, pourquoi est-il si urgent de se préoccuper collectivement de la maladie d'Alzheimer ? Docteur Petitpré ?
Il est très utile de s'en occuper, ne serait-ce que par l'effet de masse que cela représente. Comme vous le dites, environ 1 million de personnes touchées directement, ce qui veut dire environ 4 millions de familles, enfin 4 millions de proches qui sont également touchés. L'un des slogans de France Alzheimer est que un malade Alzheimer, c'est toute une famille qui souffre, c'est toute une famille qui a besoin d'aide.
Justement, c'est toute une famille qui souffre. Pourquoi ? Quelles sont les spécificités de la prise en charge de cette maladie ?
Alors, c'est une famille qui souffre d'une part de manière très directe par la charge de travail que cela représente, la nécessité très rapidement dans l'évolution d'une surveillance constante de la part de l'entourage, surveillance qui n'est absolument pas prise en compte par la société et qui donc repose essentiellement sur la famille. Et également une spécificité par le caractère particulier de l'atteinte. Cette maladie qui touche, en détruisant progressivement la personnalité d'un être proche, est particulièrement douloureusement ressentie par l'entourage qui voit une personne se modifier, devenir autre qu'elle-même. Et c'est également une nécessité donc de la faire prendre en compte par la société en général, le pouvoir public et opinion. Les personnes qui commencent à s'en occuper maintenant ne peuvent pas se représenter ce que cela a été il y a encore 10 ou 15 ans, où les familles ressentaient un sentiment d'abandon, un sentiment vraiment de non prise en compte, de même de non reconnaissance de la maladie, ce qui motive encore beaucoup maintenant les bénévoles qui sont dans l'association depuis un certain temps. Cela donne carrément un ressentiment vis-à-vis de la société en disant « non seulement on ne m'a pas aidé, mais même on n'a pas tenu compte de notre problème, on n'a pas été reconnu ». Une des demandes qui a été attendue pendant très longtemps, alors que cela ne représentait pas grand-chose, c'était de classer la maladie dans le cadre des ALD 30.
Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ?
Oui, ça l'est depuis 2004 seulement, mais ça a été réclamé pendant plus de 10 ans. Et jusque-là, c'était classé dans le groupe des troubles graves de la personnalité.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pathologie est prise en charge à 100% par la sécurité sociale.
Elle était prise en charge. C'est pas tellement le fait de la prise en charge. C'était pris en charge à 100%, mais non reconnu comme tel. C'était trouble grave de la personnalité, c'est-à-dire mis dans un fourre-tout de troubles mentaux et pas d'une maladie neurologique propre.
Alors, vous l'avez dit, cette maladie porte atteinte à l'essence même de la personne. Peut-on détailler un peu les symptômes ? J'en ai parlé brièvement en introduction, mais je pense que ça mérite d'être un peu développé. Professeur Hauve ?
Oui, bien, la maladie commence par un trouble de la mémoire, très généralement. Très insidieux dans son début, dans son évolution. Et ce trouble de la mémoire porte d'abord sur des faits qui sont relativement récents, sur l'acquisition de données récemment proposées aux malades. Et puis, peu à peu, eh bien, ce trouble de la mémoire devient de plus en plus important, jusqu'à gêner, bien entendu, de façon très considérable, la vie de la personne atteinte. Puis, à ce trouble de la mémoire, eh bien, s'associent parfois des troubles du langage, des troubles de la reconnaissance. Les gens ne reconnaissent plus les personnes de leur entourage, de leur famille, ils se perdent. Ils ont aussi parfois des difficultés motrices. Ils ont des difficultés à effectuer des gestes simples, comme parfois même simplement l'habillage. Et peu à peu, ces difficultés s'ajoutent à une diminution de ce que l'on appelle les fonctions cognitives. C'est-à-dire que, en fait, en pratique, le raisonnement devient moins bon. Programmation des gestes, programmation de la journée, par exemple, puis celle de petites choses à faire, s'altère. Et tout ceci alors que le patient, la patiente, a une marche qui est tout à fait conservée, la possibilité d'entendre, la possibilité de voir de façon tout à fait normale. Et bien entendu, à ce stade d'évolution, le diagnostic est facile, mais au début, il est très difficile. Il est très difficile, c'est pour ça qu'on ne sait même pas exactement le nombre de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Pourquoi ? Eh bien parce que le diagnostic est très tardif dans l'évolution. On le reconnaît mal, on prend cette maladie pour des troubles normaux du vieillissement. Et normal, en vieillissant, qu'on ait quelques petits troubles de mémoire. C'est quelque chose qui est habituellement bien toléré par l'entourage. Et donc, ces difficultés diagnostiques qui se posent aussi avec des états qui sont très transitoires, qui vont survenir parce que simplement, personne est un petit peu confuse, elle ne sait plus très bien où aller, elle a peut-être pris trop de médicaments, ou elle a peut-être, vous voyez, enfin, et ceci est transitoire, ça va pouvoir régresser. Donc, ces états de confusion sont souvent très difficiles à distinguer d'une démence débutante. Il y a encore une autre maladie qui est très difficile à distinguer de la démence débutante, c'est la dépression mentale, dépression intellectuelle. Un malade qui est déprimé, eh bien, ressemble à quelqu'un qui est dément. Et même, parfois, c'est le seul test d'un traitement antidépressif qui va permettre de montrer que les symptômes, les signes régressent et que le malade va bien et qu'il ne s'agissait pas d'une démence. Mais c'est bien entendu beaucoup plus compliqué que ça. Ne serait-ce que parce que, dans un nombre de cas non négligeables, eh bien, la confusion mentale survient sur une démence débutante, ou bien la dépression peut bien entendu être associée à la démence débutante. Donc c'est très difficile, et en fait on ne sait pas exactement combien même, si vous voulez, il y a de malades, tellement ils sont difficiles à reconnaître.
On voit que c'est une maladie complexe, tant sur le diagnostic que sur la prise en charge. Quand et comment est née l'association France Alzheimer ? Est-ce que c'était d'abord pour aider les familles de malades, les personnes malades elles-mêmes, pour faire progresser la recherche, pour tout ça en même temps ?
Un peu pour tout ça en même temps, mais en premier lieu pour réunir les malades. C'est d'ailleurs dans l'objet même de l'association qui s'est créée en 1985 sous forme d'une association nationale. C'était réunir les personnes touchées par la maladie et leurs familles. Rapidement se sont créées des associations localement dans les départements pour justement avoir cette action de proximité auprès des familles concernées. Et maintenant, France Alzheimer regroupe 105 associations qui couvrent l'ensemble des départements en France et outre-mer. Donc leur première motivation, c'était bien entendu d'aider pour accompagner ces familles qui se retrouvaient isolées, qui avaient le sentiment de vivre quelque chose de tout à fait particulier, d'être seules dans ce cas-là. Et le fait de se regrouper, de se réunir dans une association, d'assister à des réunions avec d'autres familles, leur fait prendre conscience que ce qu'ils vivaient était également la vie de beaucoup d'autres personnes qui vivaient exactement de la même façon, qui vivaient ce même drame, qui le vivaient avec une notion de culpabilité, parce que automatiquement ça donne une culpabilisation. La famille touchée a toujours l'impression de ne pas faire tout ce qu'il faudrait puisqu'elle n'arrive pas à améliorer les choses. Donc le vit mal. Et de pouvoir tout simplement déjà se retrouver avec des personnes qui les comprennent et qui peuvent les écouter sans juger, est vraiment un soulagement. Et on le voit dans nos permanences qui sont tenues par les associations locales. Les personnes viennent, souvent ont hésité longtemps avant de venir. J'ai le souvenir d'un monsieur, avocat, dont l'épouse était atteinte de maladie d'Alzheimer et qui nous a dit, après nous avoir vus, j'ai fait 3 fois demi-tour dans l'ascenseur. Parce qu'il y a cette difficulté à venir demander de l'aide. Mais de l'aide psychologique, de venir parler de son problème. En fait. Et ce qui est développé dans le cadre de l'association sont soit des groupes de parole entre familles, et aussi beaucoup de groupes de soutien psychologique animés par des psychologues, et qui permettent donc à ces familles de s'exprimer leurs problèmes et d'en tirer vraiment un grand soulagement.
C'est davantage destiné aux familles qu'aux personnes malades en tant que telles.
Alors, au départ, oui, essentiellement, au départ, mais parce que, bon, aussi, pour reprendre un peu, somme toute, un historique, en 85, la maladie était diagnostiquée à un stade très tardif. Et on parlait de maladie d'Alzheimer à un stade qui était, où la personne était vraiment très, très démente. À l'époque, il n'y avait aucun traitement. Et c'est un peu cet abandon de tous, et notamment aussi du corps médical, qui disait, mais on ne peut rien faire. On ne peut rien vous proposer. Et donc, ça, c'était encore quelque chose qui a majoré ce drame, ce ressenti, quoi, cette impuissance vis-à-vis d'une progression, alors qu'on peut toujours faire quelque chose, ne serait-ce que soulager. Il y a beaucoup de maladies encore qu'on ne guérit pas complètement. Ce n'est pas une raison pour ne pas les soulager et faire en sorte, notamment, que l'évolution est moins rapide. Une des paroles qu'aussi que disaient systématiquement les familles, quand elles venaient notamment tardivement aux permanences, mais qu'est-ce que j'ai fait comme erreur dans la prise en charge? Et ça, cette information des familles concernées et cette formation justement à une meilleure prise en compte, c'est ce qui a aussi contribué à ce que maintenant l'évolution est relativement ralentie, qu'on peut un peu préserver des acquis, maintenir du lien social et finalement permettre de continuer à vivre, mais à vivre avec une maladie, mais quand même continuer à vivre.
Je vous propose de marquer une courte pause avant d'aborder la question de la prise en charge. Nous retrouvons le professeur Jean-Jacques Hauve de l'Académie de médecine et membre du comité scientifique de France Alzheimer, ainsi que le docteur Petitpré, secrétaire général de France Alzheimer. Nous évoquions à l'instant la question de la prise en charge. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? Au début, elles sont chez elles. On commence à s'apercevoir qu'il y a un problème. Est-ce qu'on envisage à terme un placement en institution spécialisée? À quel moment faut-il s'en préoccuper? Comment ça se passe concrètement pour les familles atteintes?
Le placement, d'abord, j'aime pas beaucoup le terme. La personne n'est pas un objet. Non, le recours à l'institution n'est pas obligatoire, n'est pas dans le cursus obligatoire de la maladie, et il peut être plus ou moins précoce en fonction de l'état familial. Il est certain que ce recours à l'institution est relativement rapide pour les personnes seules, qui sont quand même très, très fréquente chez les personnes âgées, la maladie d'Alzheimer touchant de façon progressive les personnes de plus en plus âgées. Donc les personnes seules, assez rapidement, ne sont plus en état de rester seules, d'abord parce qu'il y a un risque d'errance, de se retrouver perdu dans la rue, particulièrement si c'est en ville, et de s'égarer et de ne plus se retrouver. Ensuite, eh bien, ça dépend aussi de l'état du reste de la famille, du conjoint, s'il est lui-même âgé et pas en état physique permettant ce maintien à domicile, cet entretien à domicile qui est particulièrement lourd, puisque c'est 24 heures sur 24, et dans pas mal de cas, jour et nuit, le malade ayant perdu ses rythmes de vie, a une activité éventuellement déphasée avec des levées nocturnes, et ce qui bouleverse complètement toute l'économie domestique.
Dans le cas où la personne reste à son domicile, est-ce qu'il y a des moyens de soulager un peu sa famille en ayant recours au soutien de personnel médical ou paramédical ?
Oui, le principal problème de ce maintien, c'est financier. Et ici, les études financières, les études économiques, qui sont relativement peu nombreuses, ont quand même montré récemment qu'un malade Alzheimer coûtait en moyenne 22 000 et quelques euros par an, dont une faible partie représentait les soins médicaux proprement dit, les soins pris en charge par la Sécurité sociale, qu'il restait plus de 12 000 euros pour la prise en charge non médicale, dont plus de la moitié était à la charge de la famille elle-même. Et donc, la principale difficulté tient au coût de cette prise en charge. Cette prise en charge étant surtout la possibilité de libérer la famille pendant un certain temps dans la journée pour lui permettre de faire autre chose. Et donc, il y a effectivement des auxiliaires de vie qui peuvent le faire. Et la prise en charge actuellement se fait essentiellement dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie.
En matière de traitement, on a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas guérir la maladie, mais qu'on pouvait en retarder le cours. Est-ce que ça passe avant tout par des médicaments ou aussi par d'autres formes de thérapie que la famille pourrait mettre en œuvre éventuellement ?
Oui, bien entendu. Il y a plusieurs types de traitements, en fait. D'une part, il y a des traitements qui cherchent à améliorer la maladie elle-même. Et puis, il y a des traitements qui cherchent à améliorer les symptômes. Et M. Petitpré a évoqué les troubles du sommeil, par exemple, ou l'agitation des malades. Et bien entendu, il est très important de rétablir, autant que faire se peut, un cycle de sommeil normal et de réduire aussi l'agitation des malades. Et cela, eh bien, il y a des médicaments pour le faire. Maintenant, depuis quelque temps, sont sortis un certain nombre de médicaments qui s'adressent à la maladie elle-même. Ces médicaments ne guérissent pas la maladie d'Alzheimer, dont l'évolution est inéluctable. Elle est variable dans sa durée, mais se compte en années. Ça dépend un petit peu du sexe et de l'âge de la personne qui est atteinte. Mais très schématiquement, on peut penser que ça évolue pendant 3-4 ans en moyenne. Et donc, on peut essayer de retarder cette évolution, de stabiliser le déficit intellectuel du patient, et cela avec des médicaments qui sont actuellement sur le marché, qui sont remboursés par la Sécurité sociale, et dont l'efficacité n'est pas immense, et dépend en fait des patients, mais qui peuvent stabiliser l'évolution. Et puis, bien entendu, il y a des traitements qui ne sont pas des traitements médicamenteux. Et on peut essayer de garder un lien social au patient, on peut essayer de développer sa mémoire, il y a de multiples, si vous voulez, possibilités thérapeutiques de ce type qui sont très largement utilisées et qui sont nécessaires. Même si elles ne vont pas guérir, eh bien, elles vont améliorer le patient, améliorer aussi son comportement dans sa famille ou dans l'institution où il est hébergé. Et donc, c'est absolument nécessaire. Bien entendu aussi, on a des espoirs thérapeutiques, mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Et ça, c'est un point sur lequel il ne faut pas non plus donner trop d'espoir. Mais en tous les cas, ils existent depuis quelques années.
Pour les familles qui souhaiteraient mettre en œuvre des thérapies non médicamenteuses, donc des exercices de stimulation de la mémoire, par exemple, l'association France Alzheimer est-elle un lieu ressource pour s'informer sur ce qu'on peut pratiquer ?
S'informer et surtout prendre en charge. Puisque justement, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont organisés des groupes de soutien pour les familles, mais également un certain nombre d'associations départementales mettent en place des ateliers de stimulation cognitive pour les malades, notamment en phase relativement débutante, telle que l'on en voit maintenant, heureusement, de plus en plus souvent. Donc ça, c'est une façon effectivement de continuer à maintenir ce lien social, une certaine intégration des malades qui sont demandeurs, qui recherchent, notamment dans les premiers temps de la maladie, quand le diagnostic leur tombe dessus, c'est maintenant un stade où le patient est encore parfaitement conscient et rend compte de ce qui lui arrive. Et il est important, là, de ne pas le rejeter en disant « bon, ben, vous avez une maladie d'Alzheimer, ben, c'est tout, on ne peut rien faire de plus ». C'est le maintenir dans des activités adaptées à son état et est important. De la même façon, existe un certain nombre d'autres moyens actuellement. France Alzheimer a développé, il y a déjà une dizaine d'années, ce qu'on appelle les séjours de vacances, qui sont donc des séjours organisés d'une douzaine de jours pour un groupe d'une dizaine de familles, de couples. Généralement, donc, c'est les deux conjoints, ou alors ça peut être la personne malade et un enfant, et qui sont donc pris en charge par des bénévoles de l'association, sous la responsabilité d'un organisateur du séjour, et qui sont vraiment une réussite extrêmement importante, parce que ça permet à la fois au malade et à son accompagnant de sortir de leur isolement et de ressortir de chez eux pour un séjour de vacances qui devient totalement impossible autrement, parce que aller en vacances avec un patient malade dans un lieu de vacances classique, et je termine généralement catastrophe, parce que ben, l'accompagnant est tendu, crispé, le malade le sent et d'autant plus énervé, et se conduit de façon inopportune dans un lieu où le public n'est pas du tout habitué et réagit très mal, et finalement ça se termine par des catastrophes. Donc le séjour de vacances est vraiment quelque chose qui a été vraiment un moyen très intéressant. Et également, maintenant, se développent les écueils de jour. À France Alzheimer, on qualifie toujours de thérapeutique. Cela ne veut pas dire que ça a un effet de guérir la maladie, mais ça nous permet d'insister sur le fait que ces accueils de jour sont d'abord intéressants pour le patient, et pas seulement, comme ça l'a été un peu envisagé au départ, comme une garderie pour faire souffler la famille. Le fait de se retrouver dans un accueil de la journée pendant lequel on s'occupe de la personne, on lui fait pratiquer des activités, a également un effet positif sur son évolution.
Comment sont organisés concrètement ces accueils de jour? Est-ce qu'il y a une participation active de l'État? Et qui sont les professionnels qui prennent en charge les patients? Est-ce que ce sont des bénévoles ou des personnes salariées de l'association ou d'autres structures?
Alors au début, il y a eu de tout, parce qu'au début, ça a été créé. Ça s'est créé de rien. Bon, il n'y avait donc effectivement donc pas de participation de l'État sur le plan, disons, national. Maintenant, les accueils sont, quand ils répondent à certains critères, sont agréés par un passage en CROSM, et à ce moment-là, la structure touche une allocation des DAS, une espèce de prix de journée, et il reste généralement une participation de la famille, mais il y a également, ces accueils sont aidés par les collectivités départementales, collectivités locales. Alors, les accueils de jour, il y en a un certain nombre qui ont été créés par des associations locales de France Alzheimer, d'autres par d'autres structures, notamment les CCAS ou d'autres structures associatives. Et ils font partie maintenant de l'arsenal qui a été défini dans le plan Alzheimer 2002 puis 2004. Mais leur développement, bon, est encore lent à mettre en place, parce que c'est pas tout dit. On accorde un certain nombre de journées accueil de jour dans le cadre de la sécurité sociale. Il faut surtout trouver la structure qui va mettre en place l'accueil, qui va le faire fonctionner et qui va trouver surtout le financement complémentaire. Mais maintenant, l'orientation est de le faire avec des salariés, effectivement. Au départ, il y a eu des accueils plus ou moins bénévoles, mais l'orientation est quand même d'avoir maintenant quelque chose qui est professionnalisé pour avoir notamment une optique de prise en charge très cohérente.
Je vous propose de marquer une courte pause.
La La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Academy vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Nous retrouvons le professeur Jean-Jacques Auve de l'Académie nationale de médecine et membre du comité scientifique de France Alzheimer, ainsi que le docteur Jean Petitpré, gériatre et secrétaire général de France Alzheimer. Après la question de la prise en charge, se pose la question des espoirs thérapeutiques. Vous en parliez tout à l'heure, professeur Auve, en mentionnant des actions dans ce sens et en disant qu'il ne fallait tout de même pas nourrir trop d'espoir. En quoi France Alzheimer aide-t-elle à la recherche ?
On peut dire d'abord quelle est la recherche et ensuite en quoi France Alzheimer l'aide. Et France Alzheimer est très utile. Quelle est la recherche ? Ben, il faut deux choses principalement, actuellement, c'est reconnaître tôt la maladie de façon à ce qu'on puisse la traiter de façon efficace avant que des désordres, des lésions importantes soient créées par la maladie dans le cerveau. Et deuxièmement, essayer bien entendu d'empêcher le cours de cette maladie. Alors, premier point, on va essayer de la reconnaître vite. Et pour cela, il y a plusieurs techniques différentes sur lesquelles des recherches sont menées actuellement. La première technique, c'est l'amélioration de la psychologie, des tests psychologiques, de façon à ce que le diagnostic soit porté le plus tôt possible. La deuxième voie, c'est le diagnostic par imagerie médicale. Et là, eh bien, on perfectionne actuellement le diagnostic par l'IRM, l'IRM fonctionnel. Et il y a là vraiment des pistes importantes qui permettent d'espérer que le diagnostic pourra être porté très tôt. Et encore une autre voie, c'est la voie qu'on pourrait appeler biologique. C'est-à-dire qu'on essaye de faire un diagnostic par une ponction lombaire, une prise de sang, un geste qui soit le moins invasif possible, bien entendu. Et pour cela, eh bien, on essaye de découvrir des marqueurs périphériques, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le cerveau, hein, qui sont dans le sang, qui sont dans le liquide céphalo-rachidien, dont l'élévation soit caractéristique de la maladie. Dans tous ces champs de recherche, eh bien, il y a des progrès qui sont en train d'être faits, et j'ai cité neuropsychologie, mais ça peut être aussi l'imagerie, on l'a dit, et en biologie aussi, donc on progresse beaucoup. Et maintenant, les espoirs thérapeutiques sont très importants. Et pour cela, je crois qu'il faut qu'on dise un petit peu quelques mots du mécanisme de la maladie. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque on développe une maladie d'Alzheimer ? Eh bien, il y a, Alzheimer d'ailleurs l'avait reconnu, c'est comme ça qu'il a reconnu la maladie, il y a deux types de lésions qui apparaissent dans le cerveau. Il y a ce qu'on appelle les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires. Eh bien, on sait maintenant interpréter en termes biochimiques ces lésions qu'Alzheimer avait vues avec son microscope. On sait que les dégénérescences neurofibrillaires sont dues à l'agrégation d'une protéine, la protéine Tau, et qui est anormalement phosphorylée, c'est-à-dire qu'elle subit des adjonctions de phosphate, si vous voulez, anormales. Et cette protéine Tau, anormalement phosphorylée, va s'agréger à un moment donné et elle va gêner le fonctionnement des neurones. En particulier, elle est très importante, cette protéine, pour ce qu'on appelle le flux axonal. Le flux axonal, c'est le système du neurone qui permet aux différentes protéines qui sont synthétisées dans le cytoplasme, le corps cellulaire du neurone, d'aller vers les prolongements de ces neurones, c'est-à-dire vers les synapses. Puis dans l'autre sens aussi, eh bien, les protéines vont des synapses vers le cytoplasme. Et vous savez que le rôle du neurone est très important, c'est-à-dire que ces différentes synapses font établir des relations d'un neurone à l'autre, et c'est ça qui fait le fonctionnement cérébral. Donc, ce flux axonal va être anormal en raison de cette anomalie de la protéine Tau. Et bien entendu, essayer de réduire la phosphorylation anormale de cette protéine, essayer de réduire son agrégation, c'est-à-dire le fait que les protéines se collent les unes aux autres pour faire ces neurofibrilles anormales que Alzheimer avait vues à son microscope, et bien là, c'est un espoir thérapeutique. Il y a une deuxième protéine, qui est encore plus actuellement l'objet de multiples recherches. Encore que la protéine tau soit très importante et qu'il y ait beaucoup de travail mené sur cette molécule. La deuxième protéine donc importante, en fait, c'est un peptide qu'on appelle le peptide A-bêta. A pour amyloïde et bêta pour bêta-plissé. Ça veut dire que ce nom un petit peu barbare, si vous voulez, témoigne du fait que cette protéine va s'agréger en structures qui ont une formation tout à fait particulière, qu'on appelle les formations bêta, qui leur donnent cet aspect amyloïde. Et ces formations bêta et cette protéine amyloïde sont très stables, très difficiles à évacuer. Et c'est eux dont la présence entre les différents neurones gêne le fonctionnement. Et on ne sait pas très bien en fait quelles sont les relations entre la protéine tau dont on parlait tout à l'heure et le peptide A-bêta dont on parle maintenant. On ne sait pas quel est le premier probable que, au moins, si vous voulez, dans un certain nombre de cas, c'est le peptide A-bêta qui survient en premier, qui va entraîner d'une manière ou d'une autre, qu'on ait mal d'ailleurs, la phosphorylation normale de la protéine tau. Et le tout, donc, on va entraîner la mauvaise connexion des différents neurones et puis leur dégénérescence progressive. Alors, le peptide A-bêta. Ce peptide A-bêta, il provient, en fait, de la section d'un peptide plus long qu'on appelle la protéine précurseur du peptide A-bêta. Et donc, ce peptide A-bêta est sectionné par des enzymes à partir de son précurseur. Le peptide est coupé de son précurseur par des enzymes. Il y a plusieurs types d'enzymes qui vont agir. Et il y a essentiellement ce qu'on appelle les bêta et gamma sécrétases qui vont isoler ce peptide A-bêta. Il faut signaler qu'il y a une autre voie de destruction, de section, si vous voulez, du précurseur. C'est ce qu'on appelle la voie par alpha sécrétase, mais celle-là coupe le précurseur au milieu du peptide A-bêta. Donc, lorsqu'il y a une action de ces enzymes, eh bien, il n'y a pas de production de peptide A-bêta puisqu'il est coupé en deux. Donc, ce qui est important, c'est d'une part la balance entre les deux systèmes enzymatiques, celui qui coupe le peptide en deux et puis celui qui l'isole, premier point. Et puis, deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est ces deux systèmes enzymatiques, les bêta et gamma sécrétases, dont, bien entendu, on aimerait bien pouvoir moduler l'action pour éviter que ne se forme ce peptide A-bêta qui est toxique. Voilà donc des tas de voies, si vous voulez, plusieurs voies de recherche qui sont actuellement suivies par de multiples laboratoires. Alors on peut peut-être maintenant arriver à la voie de recherche qui a fait parler d'elle beaucoup récemment, c'est-à-dire la vaccination contre le peptide A-bêta. Eh bien, on a donc montré chez un modèle animal très intéressant, ce sont des souris transgéniques chez lesquelles on a inséré des gènes de maladie d'Alzheimer humaine et qui produisent le peptide A-bêta d'une part, la protéine tau normalement phosphorylée aussi. Donc, chez ces souris transgéniques particulière, on a essayé une vaccination classique, c'est-à-dire une vaccination active, c'est-à-dire qu'on a injecté le peptide A-bêta avec un adjuvant, puis on a vu apparaître des anticorps et les souris ont été améliorées. Non seulement le peptide A-bêta a été réduit dans le cerveau, mais encore, eh bien, les souris ont une amélioration de leur comportement, alors que normalement, ce sont des souris qui sont démentes, comme les malades, puisque s'accumulent dans leur cerveau, eh bien, les mêmes protéines que chez le malade.
Le vaccin a été réalisé avant l'accumulation des plaques, ou il y avait déjà des plaques dans le cerveau des souris
hein? Eh bien, en fait, il y avait déjà des plaques, puisque ces souris, on leur insère des gènes, et donc des gènes qui produisent les plaques, en fait. Et donc, eh bien, génétiquement, dès le début, elles produisaient des plaques. Quand on a traité les souris, eh bien, on a eu l'heureuse surprise de voir les souris s'améliorer de façon très importante. Donc, l'espoir est immense. C'est-à-dire que si on peut effectuer la même traitement, la même manœuvre chez le malade, eh bien, on pourrait voir régresser l'accumulation de peptides A-bêta dans le tissu nerveux, et donc espérer la régression de la maladie. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et on est allé jusque à un essai thérapeutique dit de phase 2, c'est-à-dire qu'il est au stade, si vous voulez, on essaye encore chez des cohortes de malades le traitement. Et malheureusement, on était obligé d'arrêter. été obligé d'arrêter. Pourquoi ? Eh bien parce que des accidents se sont produits. On aurait pu le prévoir un peu, mais chez les souris, c'était bien passé. Mais le peptide A-bêta, c'est un peptide, en fait, transmembranaire, c'est un peptide du soi. C'est-à-dire, c'est un peptide qui est contenu normalement chez le patient. Donc, bien entendu, lorsque on effectue une immunisation avec une protéine du soi, eh bien, on risque d'avoir un rejet par l'organisme de cette protéine.
Et c'est ce qui s'est passé.
Chez un certain nombre de malades, c'est-à-dire que c'est 5% des malades seulement, mais enfin, on a arrêté, bien entendu, il s'est passé, on a vu apparaître une méningite et une encéphalite des immunitaires qui étaient dues à un rejet, si vous voulez, des protéines du soi du patient.
Et est-ce qu'on a des pistes aujourd'hui pour éviter ce rejet ?
Alors, et bien entendu, d'une part, on a des pistes, mais en plus, on a arrêté le traitement, bien entendu, c'est thérapeutique, mais un certain nombre de malades ont été suivis, et ils ont continué à être suivis, même si on avait arrêté le traitement, et on a eu là de bonnes surprises, chez certains d'entre eux tout au moins. On a eu l'impression que, d'une part, lorsqu'ils sont morts et qu'on a pu faire une autopsie, et bien qu'il y avait moins de peptides A-bêta dans le cerveau, qu'est-ce qu'on aurait attendu, si vous voulez, étant donné l'état de la maladie. On a eu aussi l'impression qu'il y avait une baisse des quantités d'A-bêta dans le liquide cérébro-rachidien. Donc, vous voyez, il y a eu quand même un certain nombre, et même peut-être que eh bien, leur état cognitif s'était amélioré. Ça, c'est plus discuté, mais enfin, on a cette impression-là, tout au moins chez certains malades. Alors, nous, on a de multiples pistes pour recommencer le traitement avec des systèmes qui sont moins dangereux. Et on peut peut-être les citer, si vous voulez, un certain nombre de ces pistes. Eh bien, on pourrait changer d'adjuvant. Donc, on a actuellement des essais pour tester d'autres adjuvants que celui qui avait été repris. On peut aussi changer le peptide et ne pas injecter la totalité du peptide. Parce que, vraiment, quand on a injecté la totalité du peptide, eh bien, on a eu une réaction globale contre ce peptide, alors que on s'est rendu compte expérimentalement que si on injectait une petite portion du peptide simplement, on avait une réaction qui n'était plus une réaction d'immunité à la fois cellulaire et humorale, comme ce que l'on avait observé avant, mais une activité uniquement humorale. Et donc, dans ces cas-là, cette immunité humorale paraît être moins dangereuse que l'immunité cellulaire pour ce qui concerne le rejet des protéines du soi. Et ce serait évidemment un énorme avantage que d'avoir l'effet positif qu'on a observé expérimentalement sans avoir le risque de l'effet négatif. Donc tout ceci est mis en œuvre, d'autres pistes aussi, mais on n'aura pas le temps de tout citer parce qu'il y a d'innombrables équipes sur ce sujet, qui est un sujet très 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 important. Donc, on va, de façon très proche, reprendre une expérimentation. Mais là, ça va être beaucoup plus prudent que la première fois. C'est-à-dire que plutôt que d'étudier de grand nombre de patients, eh bien, on commencera par un tout petit nombre de patients, un patient par centre, qui sera étudié de façon très, très sérieuse, très précise, pendant longtemps, avant, éventuellement, d'élargir l'essai thérapeutique à un plus grand nombre de patients. Voilà, c'est en train de se passer actuellement. En guise de conclusion, je voudrais signaler que l'année dernière, France Alzheimer a édité un remarquable livre vert sur la recherche de France Alzheimer où toutes les questions intéressantes sont traitées, qui fait un véritable bilan complet et intéressant sur la recherche dans cette maladie.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de notre émission. nous retrouverons Jean-Jacques Hauve. Vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine et membre du comité scientifique de France Alzheimer, ainsi que le docteur Jean Petitpré. Vous êtes gériatre et secrétaire général de France Alzheimer. On a évoqué la prise en charge de la maladie. On a évoqué le fait qu'on ne pouvait pas la soigner, mais qu'on pouvait éventuellement la retarder. La recherche a bien sûr un rôle à jouer dans ce domaine. Quelles sont les pistes actuellement prometteuses et en quoi France Alzheimer joue-t-elle un rôle pour la recherche ?
Eh bien, les pistes prometteuses, c'est assez simple, c'est assez facile à comprendre lorsqu'on sait que la maladie d'Alzheimer est due à l'apparition de deux protéines anormales dans le cerveau. Et la protéine tau anormalement phosphorylée, d'une part, et d'autre part, une autre protéine qui a un nom tout aussi barbare, la protéine A-bêta pour amyloïde bêta-plaqué. Et ces deux protéines forment les lésions que Alois Alzheimer avait décrit dans le cerveau. Et bien entendu, les pistes de recherche visent à réduire cette accumulation anormale de protéines dans le cerveau. Il y a d'autres recherches, bien entendu, visant au diagnostic plus précoce ou bien à la prise en charge thérapeutique, qu'elle soit médicale, thérapeutique, médicamenteuse ou non médicale, sous forme de stratégies variées. Et pour cela, France Alzheimer est très utile. Car France Alzheimer, depuis qu'il s'est constitué, donne des bourses pour des jeunes chercheurs. Et c'est cela dont les laboratoires ont le plus besoin. Et le nombre de bourses qu'il donne a augmenté de façon importante avec ses moyens qui sont de plus en plus importants. Il faut les remercier beaucoup. Et actuellement, pour vous donner un exemple, en 2006, il a pu être distribué 17 bourses de jeunes chercheurs, qui sont des bourses qui sont de 16 000 euros par an. D'autre part, deux bourses chercheurs plus confirmées. Et enfin, une bourse de chercheurs très confirmée, chercheurs de haut niveau, à 32 000 euros par mois. Et à ces bourses s'additionnent des bourses de sciences sociales et humaines, qui quatre bourses ont été distribuées à 10 000 euros. Et enfin, et ça c'est nouveau, des projets très importants ont pu être aidés par des crédits, eux aussi, plus considérables. Trois projets ont pu être aidés cette année. Et au total, c'est 242 000 euros qui ont été distribués par France Alzheimer. Ce sont des sommes considérables, car ce sont des sommes qui surviennent et qui permettent de faire fonctionner des équipes déjà constituées et dont le manque criant et justement celui de ces crédits frais que l'on peut utiliser comme on le veut pratiquement, et aussi des crédits permettant aux jeunes de travailler et de s'orienter, car c'est l'idée de France Alzheimer, de s'orienter vers la recherche sur cette maladie.
Ces bourses sont attribuées par le comité scientifique dont vous faites partie ?
Bien entendu, oui. Après un appel d'offres très largement diffusé, eh bien, le comité scientifique fait appel des arbitres, des référés, si l'on veut, comme on dit en anglais, qui jugent les demandes de recherche, puis il se réunit et là, eh bien, il décide quels vont être les différents projets auxquels ces crédits vont être attribués. Et ces projets sont attribués aussi bien pour des chercheurs de Paris que pour des chercheurs de province, aussi bien pour des chercheurs très fondamentaux que pour des chercheurs plus cliniciens, bien entendu en fonction de la qualité des demandes, c'est ce qui compte avant tout, mais le comité scientifique fait des efforts justement pour que toutes les disciplines qui sont si nécessaires à la recherche sur la maladie d'Alzheimer soient aidées.
Vous avez évoqué l'attribution de bourses dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Tout à fait.
Quel type de travaux sont concernés dans ce domaine ?
Oh, il y a des travaux multiples que j'avoue ne pas être très capable de juger, car ce n'est pas le comité scientifique médical qui les juge, mais un comité spécial. Peut-être que M. Petitpré peut en dire un mot.
De tous les domaines des sciences humaines, que ce soit la psychologie, la sociologie, le droit, c'est ouvert à vraiment tous les domaines. Et c'est un domaine nouveau. C'est une volonté de France Alzheimer, d'une part, de soutenir la recherche, parce que la recherche répond à une énorme espérance de la part des familles. Ils sont toujours dans l'attente de la découverte qui va vraiment répondre de façon, cette fois, thérapeutique et curative à la maladie. Et également, c'est d'y intéresser l'ensemble de la société, et donc l'ensemble des domaines. C'est une maladie qui, par ses retentissements, touche vraiment tous les domaines, notamment ben, les domaines de sociaux, économiques. Donc, c'est depuis la deuxième année que Franz Holzheimer a proposé ses bourses en sciences sociales et humaines, de façon à y intéresser, comme cela a été fait pour les sciences plus médicales. Au départ, il y avait relativement peu de chercheurs impliqués dans la maladie. Ces chercheurs n'existaient pas et ils n'avaient pas de moyens. Donc, il n'y avait pas de laboratoire orienté vers la maladie d'Alzheimer. Et avec des moyens très limités au départ, mais qui malgré tout, avaient, malgré ces moyens limités, ont réussi à implanter des laboratoires qui maintenant ont une renommée internationale et qui sont constitués à partir de boursiers de Franz Alzheimer. Quoi. Dont maintenant, l'ancien boursier est devenu directeur de recherche, a intégré le comité scientifique de Franz Alzheimer, est devenu maintenant un maître dans le domaine. Et comme le professeur Rove le dit, maintenant, il y a des équipes extrêmement nombreuses qui travaillent sur la maladie d'Alzheimer, ce qui est vraiment pas encore suffisant, parce que la recherche sur la maladie d'Alzheimer en France n'est pas encore suffisamment dotée, notamment de la recherche publique, où on n'a pas encore pris conscience, je pense qu'on l'a, mais peut-être pas trouvé les moyens de financer cette recherche comme le sont d'autres recherches, notamment en matière neurologique.
Quelle est la priorité aujourd'hui pour France Alzheimer ? Est-ce que c'est toujours de faire en sorte que la maladie d'Alzheimer soit reconnue comme une pathologie en tant que telle ? On l'a dit, maintenant c'est le cas pour la sécurité sociale, mais peut-être que pour les familles, c'est pas toujours encore vraiment effectif. Est-ce que c'est d'aider la recherche à progresser ? Est-ce que c'est de faire en sorte que la maladie d'Alzheimer soit considérée comme un problème de société, de par le nombre de personnes qu'elle touche ?
Oui, effectivement, il y a une sensibilité peut-être assez forte de la part de pas mal de familles et surtout de responsables qui ont été touchés. C'est toujours cette crainte qu'on les repousse dans le handicap et en disant « ça n'est pas une maladie, c'est un état qu'on ne peut pas changer ». Donc, effectivement, c'est toujours ce besoin que ce soit reconnu comme une maladie à part entière et donc que l'on y mette tous les moyens pour la traiter. Mais, bien sûr, l'association attache une grande importance à la recherche dans tous les domaines, mais tout en sachant que pendant encore très longtemps, il y aura ce besoin de prendre en charge les personnes touchées par la maladie et de les accompagner et que le traitement proprement médicamenteux ne viendra pas à bout de tout. Et c'est vrai d'ailleurs de la plupart des maladies maintenant, on le sait aussi, même dans le cancer, on s'aperçoit que quelqu'un qui a eu une maladie grave, mettre les moyens adéquats, thérapeutiques, c'est très bien, mais prendre en considération également qu'on a devant soi une personne humaine et qu'on ne la traite pas comme une machine de façon un peu déshumanisée, c'était souvent un refrain entendu à propos notamment du manque de considération qu'on pouvait avoir de la part de certains techniciens dans les hôpitaux où on est traité sans tenir compte de l'humain. Et là, dans une maladie de genre, c'est vraiment une importance considérable.
Mais il va falloir un effort de formation considérable pour le personnel soignant. On va tout simplement avoir besoin de plus de gens pour soigner de plus en plus de patients.
Oui, alors ça, la formation est également un des autres pôles dans l'action de France Alzheimer. C'est également une de ses priorités depuis l'origine également, où l'association a à la fois tenu à former les bénévoles, ses propres bénévoles, à l'écoute notamment des personnes qui viennent les voir, des bénévoles qui accompagnent les séjours de vacances, mais également a mis en place une certaine technologie, disons, une certaine habitude pour la formation des professionnels. Et l'association donc propose à des équipes qui sont à la disposition des professionnels, notamment des paramédicaux, des auxiliaires qui viennent dans les services à domicile que dans les établissements. Mais également, il y a un gros besoin de formation des médecins, et du médecin généraliste notamment, qui, pendant très longtemps, s'est tenu à l'écart parce que d'abord, il n'avait pas de moyens thérapeutiques. Tant qu'il n'y avait pas de traitement à proposer, les médecins étaient très frustrés. Pour un médecin généraliste, découvrir une maladie en disant « mais j'ai rien à vous proposer en face », c'est très frustrant et finalement beaucoup ne s'y sentaient pas à l'aise et ne la prenaient pas vraiment en considération. Et donc il y a un gros effort à faire justement pour notamment aboutir à un diagnostic précoce. C'est le médecin traitant qui est le premier, doit être en alerte pour après mettre en œuvre les moyens qui sont très spécialisés après. Des tests neuropsychologiques très spécialisés, c'est pas le médecin traitant qui peut le faire. Ensuite, avoir recours aux nouvelles technologies de l'IRM fonctionnelles non plus, mais c'est d'abord le repérage de la maladie.
Bien, c'est sur cet appel à la vigilance de chacun que nous achevons cette émission. Professeur Jean-Jacques Auve, merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Jean Petitpré également. Je rappelle que l'on peut contacter l'association France Alzheimer via son site internet www.francealzheimer.org et l'on trouve sur le site l'ensemble des coordonnées des antennes locales. Merci d'avoir suivi cette émission. Thank you.